Monique, l'évolution de l'accent de Bernard Derham raconte l'affirmation du français québécois. Quel titre intéressant, et je suis certaine que vous allez nous garder captifs jusqu'à la toute fin. C'est un article que vous avez trouvé dans La Conversation.
Oui, un lieu de prédilection pour découvrir les recherches qui sont faites par des professeurs et chercheurs qui viennent du monde entier, en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce site qui agglomère, finalement, qui est un agrégateur de toutes ces universités qui en sont membres et des personnes qui œuvrent à l'intérieur de ces universités. Alors, pendant près de 40 ans, Bernard Derham a incarné la voix du téléjournal et accompagner les bouleversements du Québec moderne. Alors derrière cette constance, sa façon de parler a pourtant changé, révélant à sa manière l'évolution linguistique et identitaire du Québec. Dans une étude donc sur le français parlé dans les médias audiovisuels québécois, le professeur Marc Chalier s'est penché sur un détail de prononciation en apparence négligeable: la façon dont Bernard Derham prononce les sons T et D des voyelles, devant des voyelles, pardon, comme I ou U. Il est bien connu qu'en français québécois, dans ce type de contexte phonétique, ces consonnes ont tendance à se transformer. Alors, tu dînes sera prononcé tu dînes. Et ce phénomène, Hélène, ça s'appelle la frication. Et c'est caractéristique du français québécois. En fait, on ajoute un S ou un Z, S après le T et un Z après le D. Mm-hmm. C'est fréquent qu'on entend ça, en fait. On pourra se demander ce qu'un linguiste de la Sorbonne fait attendre l'oreille au T et au D d'un présentateur québécois. Il se trouve que le professeur Chalier étudie depuis plusieurs années les accents et les normes du français à travers le monde francophone, notamment, mais pas uniquement, au Québec. L'évolution du parler de Bernard Derham lui a paru emblématique d'un phénomène qu'il observe aussi ailleurs: la montée en légitimité de variétés locales face à la norme parisienne. Pour mesurer l'évolution de cette prononciation à travers les décennies, le professeur Chalier a analysé plusieurs heures d'extraits de journaux télévisés de Radio-Canada diffusés entre 1970 et 2008. C'est pas banal quand même, hein, comme durée.
Alors, faut être vraiment passionné.
Oui, c'est ça. C'est très précis, vous allez voir, Hélène, dans lesquels Bernard Derham prend la parole. Ce faisant, il a écouté et analysé acoustiquement, puis codé plus de 1300 cas de T et D dans tous les contextes d'affrication possibles. On se rappelle, l'affrication, c'est le T puis le D. Résultat, la proportion d'affrication chez Bernard Derham passe de près de 45% en 1970 à plus de 80% en 2008. Autrement dit, le présentateur adopte progressivement une prononciation de plus en plus proche du parler québécois courant, du moins pour ce qui est des T et des D. Au premier abord, cette évolution peut sembler anodine, mais elle est au contraire très révélatrice. C'est selon notre professeur Chalier, bien sûr. Elle reflète non pas seulement un changement personnel, mais surtout une transformation de la norme de prononciation imposée à l'écran. Dans les années 60 et 70, Radio-Canada prônait encore un modèle français dit « international ». On parlait à Radio-Canada, comme on se disait
tantôt,
c'est ça, qui était en fait largement inspiré de la norme parisienne de l'époque et que l'on associait souvent à ce que l'on pouvait entendre dans les émissions de radio et de télévision françaises. En 1965, l'Office québécois de la langue française, dans son premier cahier sur la norme du français écrit et parlé au Québec, mentionnait même explicitement les affrications et affirmait que trop nombreux sont les sons que nous, les Québécois, réalisons de façon défectueuse. On était défectueux, Hélène.
Fallait nous réparer.
Oui, c'est ça, on va aller au garage. Mais le Québec des décennies suivantes a changé. À mesure que la société s'affirmait politiquement et culturellement dans la foulée de la Révolution tranquille des années 1960, ben les médias ont progressivement relâché leur écart par rapport au parler local. À la fin des années 1980, des linguistes notaient déjà l'émergence d'un modèle québécois de prononciation plus naturel et plus représentatif du public. Les journalistes eux-mêmes, désormais tous largement formés comme des reporters, journalistes et présentateurs, et non plus comme de simples lecteurs de nouvelles, privilégiaient une prononciation plus proche de l'usage courant du français québécois. Dans ce contexte, l'évolution du parler de Bernard de Rome devient donc presque emblématique. Son affrication croissante illustre la québécisation progressive de la parole médiatique. Le passage d'un parler standardisé à un usage plus proche de celui du français québécois parlé au quotidien ne concerne pas seulement la phonétique, c'est tout un style de présentation télévisuelle qui s'est transformé. Autrefois, certains lecteurs de nouvelles pouvaient se contenter de lire des textes écrits, souvent rédigés par d'autres, dans un français soutenu et dépourvu d'émotion. Les linguistes appellent cela de l'écrit oralisé. Aujourd'hui, les journalistes s'expriment davantage en direct avec une part d'improvisation et une recherche de proximité. Le discours se fait de moins en moins normatif et laisse une plus large marge à l'expressivité et à la spontanéité du journaliste. Cette oralité mise en scène a ouvert la porte à des formes de langage plus authentiques, plus proches de la réalité langagière quotidienne des Québécois, et l'affrication, longtemps jugée trop populaire pour la télévision, a pu s'y installer sans choquer. Mais ce glissement vers un parler plus local ne signifie pas l'abandon de toute norme. Au contraire, une étude récente montre que Radio-Canada reste un modèle majeur en termes de bon usage du français pour une majorité des Québécois. La norme que la chaîne diffuse s'est simplement redéfinie. Oh mon Dieu, vous vous rappelez du bon usage, la grammaire de Grévis, Hélène? Ça, c'était volumineux, hein? Oui, 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 oui. Cette réévaluation du bon usage n'est pas unique au Québec. Dans plusieurs régions du monde francophone, des variétés autrefois perçues comme périphériques, comme celle de la France méridionale, de la Belgique ou encore des Antilles, acquièrent à leur tour une nouvelle légitimité. Le prestige linguistique se décentre peu à peu de Paris pour mieux refléter la pluralité du français. L'étude du parler de Bernard de Rome montre aussi que ce changement s'est fait sans rupture brutale. Bernard de Rome n'a pas pris l'accent québécois à l'antenne du jour au lendemain. Sa manière personnelle de parler, ce qu'on appelle son idiolecte, a évolué lentement à mesure que les usages médiatiques et les attentes du public se transformaient. Cette observation dépasse le cas d'un seul présentateur. Elle illustre le phénomène bien connu du changement linguistique. La langue d'un individu n'est jamais figée, même à l'âge adulte. Elle peut certes en partie se calquer sur des modèles de prestige, mais elle s'adapte surtout en permanence aux usages courants de son milieu et de son époque. Mais encore faut-il bien la préserver, cette langue, pour qu'elle survive, n'est-ce pas?
On va écouter Bernard de Rome dans les années 70, fin 70, puis ensuite en 2008 lors de son dernier bulletin. Et vous allez certainement entendre une différence dans le timbre de voix, mais aussi dans sa façon de parler et non de perler.
Bon, alors bonsoir. L'affaire des faits en soif est terminée. Le juge Gabriel Vallée de la Cour supérieure du Québec a levé de façon définitive tous les obstacles à la diffusion du texte et de la pièce de Denise Boucher. Paul Toutant analyse le jugement.
Ce dernier téléjournal, je le signe avec sérénité, avec reconnaissance. Reconnaissance d'abord envers vous pour toutes ces années où vous m'avez permis d'entrer chez vous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, que nous avons voulu honorer en retour par le souci de présenter une information qui soit respectueuse de votre intelligence, une information qui a un sens. Et pour moi, comme pour beaucoup d'autres, Radio-Canada est et reste la référence en information. Merci à tous mes collègues, à chacun d'entre vous, parce que le téléjournal est une équipe. Un gros, gros merci à mes amis techniciens que je salue ce soir comme après chaque émission. Merci à mes enfants qui ont su comprendre que le métier de leur père pouvait parfois aussi être exigeant. Quant à ce pincement au cœur, le temps saura bien l'adoucir. Et enfin, pour toi, Céline.
Une rose.
Bonsoir.
Qui lui offrait.
Et merci.
Alors, on n'a pas vraiment perçu de si ou de dix.
Ben un petit peu, Hélène, mais moi, j'ai trouvé que c'était dans la tension de la voix.
Oui.
C'était beaucoup plus tendu dans le premier extrait que vous avez présenté et que dans le deuxième où il était visiblement, ce ton de voix était moins tendu, en fait.
Plus à l'aise. C'est le métier qui est rentré, j'imagine.
Ou peut-être ai-je une oreille peut-être un peu particulière, je ne sais pas.
Une oreille qui a un biais?
peut-être, oui.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a une différence.
J'essayais de justifier mon article.
Oui. Oui, tout à fait. Mais il y a une différence assurément dans la voix, le oui. timbre de voix qui oui. A pris de la maturité avec le temps, mais toujours cette très, très belle voix. Merci, Monique.